Lyon Demain, le média influenceur d'avenir.
Ce bus roule au bio-GNV. Sans doute avez-vous remarqué cette mention sur des bus TCL sillonnant notre métropole. Le bio-GNV, appelé aussi gaz vert, est une énergie 100% renouvelable. Il génère 10 fois moins de CO2 que le gaz naturel. La loi énergie-climat de 2019 a fixé un objectif ambitieux, celui d'atteindre la neutralité carbone en France d'ici 2050. Le gaz vert a donc de belles perspectives. D'ici 2026, près de 400 bus 100% bio-GNV et électrique devrait circuler sur le réseau TCL. Mais le biométhane intéresse aussi les grandes entreprises. Le groupe Cheval se présente comme un aménageur engagé dans la Drôme. Cette ETI emploie 800 collaborateurs, des constructions, des amiantages, recyclage, aménagement paysager. Le groupe fait circuler sur les routes quelques 200 véhicules. Bertrand Jamonet, directeur des projets environnementaux et transition énergétique au sein du groupe Cheval.
On prend la part dans la décarbonation, notamment dans la mobilité. On espère pouvoir passer aussi dans l'industrie après, puisqu'on a quelques industries consommatrices. Mais dans la mobilité a été un axe fort passé, puisque on projette de modifier notre flotte de véhicules poids lourds et utilitaires à 50% d'énergie alternative d'ici 2026.
Ça passe aussi par la création de stations au GNV, parce qu'il faut quand même pouvoir alimenter après les la flotte.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'une fois que le constat est posé et qu'on voit à peu près nos consommations des véhicules, il est bon de savoir ce qu'on fait comme action. Et c'est toujours l'histoire de l'œuf ou la poule, savoir est-ce qu'on achète des camions au bio-GNV en attendant qu'il y ait une station, ou est-ce qu'on fait des stations et ensuite il nous faut des camions. Donc on a pris les deux, on a pris le choix de faire les deux, à la fois de commander des véhicules, puisque les véhicules c'est un petit peu long à arriver, et également de construire des stations publiques, ouvertes à tous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en bio-GNV, exactement en multi-énergie, puisqu'elles proposeront aussi des superchargeurs électriques et pourquoi pas de l'hydrogène demain si ça pousse dans ce sens-là. Et donc on a sur notre territoire, qui est Valence-Romain Aglo, il y a un consortium d'entreprises et du territoire qui ont investi un peu plus de 4 millions d'euros pour construire 3 stations de distribution de ce modèle-là, multi-énergie, et notamment pour alimenter nos flottes, mais également n'importe qui souhaiterait passer à ce type d'énergie. 100% pour l'instant, je ne l'ai pas projeté. Passons déjà à 50%, avec notamment un axe fort sur le bio-GNV. D'ici à ce qu'on passe à 100%, il y aura peut-être d'autres énergies qui arriveront. J'ai bon espoir aussi pour que les autres énergies identifiées, mais aujourd'hui non accessibles financièrement, comme l'électricité ou l'hydrogène, les coûts réduisent, puisqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à amortir un camion électrique ou hydrogène avec les coûts qui sont opérés. Mais donc, passons à 50%, je pense que ce sera déjà assez fort d'ici 2026. C'est hyper audacieux, puisqu'on est parti de zéro en 2021. Et après, on se projettera sur le 100% décarboné, mais je sais qu'on y arrivera. Ce qu'il faut là, c'est déjà qu'on arrive à 50% et surtout qu'on démontre la faisabilité du bio-GNV. Mais là, on est bien parti avec l'ouverture de la première station qui est à Valence. Les deux autres arrivent en avril et en mai, qui sont en Romans-sur-Isère et Bourg-de-Péage. Et là, on aura vraiment maillé le territoire pour tout à chacun puisse se recharger et changer un petit peu sa mobilité et passer sur une énergie décarbonée.
Démocratiser le bio-GNV, c'est aussi la volonté de GRDF, principal opérateur du réseau de distribution de gaz en France, quel que soit le fournisseur. La région compte déjà 45 unités de méthanisation. La filière gaz vert est 100% locale. Elle contribue au développement de l'économie circulaire, une solution vertueuse pour le traitement et la valorisation des déchets. Les explications avec Guillaume Armanet, c'est le directeur GRDF Sud-Est.
Si je suis très très caricatural, on prend des trucs qui pourrissent, on fait du gaz avec. Donc on va reproduire une panse de vache et on va laisser se dégrader naturellement en chauffant et en primant d'oxygène des déchets de l'agriculture. Donc du lisier, du fumier, mais aussi des biodéchets, des déchets de cantine, des restes alimentaires ou des chasses d'eau, des bouts de stations d'épuration, donc les chasses d'eau des Lyonnais par exemple. Et on va produire un gaz qu'on va épurer, qu'on va pouvoir injecter dans le réseau GRDF et qui va pouvoir alimenter les mêmes usages sans changer ses équipements, chaudières, gazinières, mais aussi des usages eau chaude sanitaire ou voire même véhicules pour faire circuler des bus, des bennes à ordures en région lyonnaise. C'est monnaie courante.
Il faut quoi pour ça? Il faut des méthaniseurs, c'est ça? C'est quoi? C'est des usines? C'est quoi?
Il faut des méthaniseurs qui sont des installations, donc c'est grand comme un grand hangar agricole, qui sont soit dans la campagne autour de Lyon, auprès d'installations agricoles. 3-4 agriculteurs se mettent ensemble pour méthaniser leurs déchets. Donc ça peut être, encore une fois, ça peut être des déchets de lisier de porc, de fumier, de reste de l'agriculture. Une fois qu'on extrait le maïs, par exemple, ce qui reste après la graine, même, bah ça peut se méthaniser. Et ça peut être aussi auprès d'une station d'épuration. La Fécine à Lyon méthanise ses bouts de station d'épuration. Et donc on va récupérer finalement en fin de process des bouts et puis on va en faire du gaz qui permet de faire rouler les bus de la ville et faire circuler les Lyonnais. Je fais le pari qu'un certain nombre de chauffeurs de bus ne sont pas forcément au courant et en tout cas d'usagers des TCL du fait que bah, lorsqu'ils circulent en ville, bah, les bus, il y a de fortes chances qu'ils soient dans un bus qui est mu par leur propre chasse d'eau.
Comment le consommateur il s'abonne au gaz vert? Comment il fait le choix du gaz vert?
Le gaz vert, il est porté par votre fournisseur d'énergie. Votre fournisseur d'énergie, en France, il y en a une petite trentaine. Vous le retrouvez sur energie-info.fr, qui est le site du gouvernement qui permet d'aller se renseigner sur ben, mon offre d'énergie, où on peut demander à son propre fournisseur, je souhaiterais consommer du gaz vert pour pouvoir apporter ma part, finalement, dans la lutte contre le changement climatique.
Quelle est la part aujourd'hui du gaz vert?
La part du gaz vert, aujourd'hui, elle est relativement minime si on prend un niveau national. Certains départements sont à 10, 15, 20%. Au niveau national, on est à quelques pourcents. Pour autant, c'est un message que je passe, on ne se pose pas la question sur la voiture électrique. On se dit, il faut y aller. Parce que c'est moins de particules fines en ville, parce que quand l'électricité est faite à partir de sources décarbonées, ce qui n'est pas tout le temps, ça permet de lutter contre le changement climatique. Et donc, on doit passer à l'électrique. La voiture électrique, le véhicule léger, c'est moins de 1% du parc. On ne se pose pas la question. Nous sommes engagés avec une vision de la décarbonation en disant le gaz vert, de la même façon, il faut décarboner. Nous, les gaziers, on est en avance sur la trajectoire qu'on nous a demandé. Aujourd'hui, le gaz vert, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. À la fin de l'été, ce sera 2. Nous avons la vision de pouvoir délivrer 20% de gaz renouvelable. C'est 13 réacteurs nucléaires en puissance à horizon 2030. Il faut continuer à soutenir cette molécule qui doit être décarbonée demain, aussi pour faire tenir tout le système énergétique français.
C'est aussi le secteur immobilier et le secteur industriel qui doivent aussi être en quelque sorte supporters du gaz vert et franchir cette transition.
Oui, on a un enjeu maintenant, c'est urgent, on le voit et on le voit maintenant dans les saisons, on le voit dans les épisodes climatiques, on a un enjeu à décarboner vite. Nous, ce que nous disons, c'est ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier, il faut décarboner l'électron, il faut décarboner la molécule. Pour décarboner, les principaux secteurs qui sont concernés aujourd'hui, c'est l'agriculture, le logement, le transport, la production d'énergie, d'électricité. Et donc tous ces secteurs-là doivent être décarbonés. Dans le logement, par exemple, passer d'une chaudière ancienne à une chaudière nouvelle, on sait qu'une chaudière sur Dieu est ancienne aujourd'hui, et bien, c'est déjà 30% sur d'économie d'énergie et donc d'économie sur ma facture, mais c'est aussi 30% d'économie de carbone pour le pays France.
On pourrait aller encore plus loin dans la décarbonation. Il y a aujourd'hui d'autres sources possibles que le gaz vert.
Il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire se sevrer de cette drogue qu'on a depuis un siècle, qui est l'énergie fossile. Et donc aujourd'hui, on sait faire du gaz renouvelable avec des déchets agricoles, avec des déchets alimentaires, avec des déchets de bouts de station d'épuration. On sait aussi, et c'est en train de basculer de la phase R&D à la phase production réelle, industrialisation, transformer en gaz renouvelable eh bien, des liquides industriels qui sont des déchets, mais aussi votre table de cuisine ou votre chaise de cuisine IKEA, ou votre meuble IKEA qu'on ne va pas pouvoir utiliser dans un incinérateur pour qui utilise de la biomasse propre, entre guillemets, mais donc des déchets de déchetterie, de station d'épuration, on sait, en les chauffant à très haute température, on sait séparer les molécules, faire du gaz renouvelable qui soit rentable pour le pays, à la fois sur la partie souveraineté, arrêter d'aller dépenser à terme de l'argent dans des pays étrangers, mais c'est de l'argent qui reste en France, c'est des emplois locaux non délocalisables, et c'est de la souveraineté énergétique pour la France.
Qu'est-ce que vous dites aux riverains qui sont un petit peu inquiets justement par rapport au développement des méthaniseurs? Est-ce que c'est quoi la nuisance d'un méthaniseur exactement?
Un méthaniseur, lorsqu'il est bien opéré, le méthaniseur moyen qu'on a en France, c'est un camion par jour de transport. Ça peut être un des soucis, une des questions que se posent les riverains. Et c'est zéro odeur. On a une agriculture qui a des odeurs. Un méthaniseur, il n'émet pas d'odeur. Il transforme du déchet en gaz.
Guillaume Armanet, directeur GRDF Sud-Est, GRDF qui ambitionne d'atteindre 100% de biogaz d'ici 2050. D'ici 2030, la région Auvergne-Rhône-Alpes vise une capacité de production de gaz vert de 4 TWh, soit l'équivalent de plus d'1 million de logements logements chauffés. D'ici 2028, la station d'épuration de Pierre-Bénite accueillera un méthaniseur avec une capacité de production de 48 gigawatt-heure par an. Un projet similaire est prévu pour la station d'épuration de Saint-Fons, mise en service prévue en 2030.